défaut dans le... dans l'instrumentation.
J'espère que non, je suis très content que vous m'ayez posé cette question, ça m'a permis de vérifier le niveau du son. Bon. J'ai l'impression que nous sommes dans la bonne position.
Bon.
Or, ce dont il s'agit... Pardon. C'est une ville charmante, vous avez fait pour
moi. Où, ici?
Oui.
Ici, vous trouvez?
Ah non, pas la pièce, la ville.
Ah oui, la ville, oui, 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 oui. Enfin, en ce moment, il fait assez froid, oui.
Mais en fait, du moins qu'il y a du soleil, c'est encourageant. Est-ce que vous êtes toujours... Vous êtes à Orléans depuis toujours?
Non, je suis arrivé à Orléans en décembre 1962. Et j'ai commencé mon activité professionnelle d'ophtalmologiste en février 63. Alors ça me fait donc 6 ans.
Ah bon?
Ça fait donc 6 ans que je suis à Orléans.
Est-ce qu'il y avait des raisons particulières pour choisir?
Non, je me suis installé à Orléans parce que, d'une part, j'aime bien la vallée de la Loire, et que c'est un pays qui me semble relativement équilibré, qui depuis toujours m'attirait. Je suis originaire d'Amiens, dans la Somme, et c'est une ville que je trouvais grise, où le seul charme pour moi est... Enfin, tout de même, cette vallée de Somme, où il y a des brouillards qui sont assez appréciables, et puis la cathédrale d'Amiens, mais enfin, l'ambiance générale ne me plaisait pas beaucoup. Je préfère mieux le nord de la France, franchement, le département du Nord et le département du Pas-de-Calais, où les gens me semblent plus affables, disons, avec qui on a plus facilement des rapports agréables. Et puis alors sur le plan professionnel, il m'était difficile de m'installer à Amiens où il y avait dans ma profession finalement trop de monde, voyez-vous. Alors j'étais passé très souvent dans la vallée de la Loire et ça m'attirait, et en plus de ça ici il semblait qu'il y avait de la place, et je me suis installé ici à Orléans comme cela, en plantant ma plaque devant ma porte.
J'espère que ça a réussi.
Oui, pas trop mal. Pas trop mal.
Excellent. Vous avez dit une région équilibrée. Qu'est-ce que vous entendez par une région équilibrée?
Ben, une région équilibrée, c'est une région qui est équilibrée sur le plan température. Il y a d'abord la question de la température. C'est pas une région qui, au point de vue température, est rigoureuse ni dans un sens ni dans l'autre. Et en plus de ça, c'est une région qui est équilibrée en ce sens qu'elle est qu'elle est douce, que ces paysages n'y sont pas brutaux, que le Val de Loire a un relief qui est un relief médiocre, certes, mais enfin plaisant à regarder. Et en plus de ça, je crois, et alors ça je ne le savais pas, je ne savais pas en arrivant ici, je crois que les gens aussi sont très équilibrés. Les gens sont finalement agréables à fréquenter. Ils ne sont pas excessifs dans aucune de leurs manières d'être, j'ai l'impression, après 6 années d'existence ici.
Alors, en somme, vous vous plaisez à Orléans?
Oui, oui, oui. C'est une région qui, pour moi, présente de multiples avantages. La proximité, quand même, du centre culturel important qui est Paris. Et puis, ma foi, j'y travaille... parfois plus que je ne voudrais y travailler, alors je n'ai guère de loisirs, et je n'ai pas tellement l'occasion de me poser la question de savoir si je m'y plais vraiment ou si je m'y plais pas vraiment.
Et enfin, dans ce cas-là, je suppose que vous devez projeter de rester à Orléans.
Ben, vous savez, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, un médecin est un individu qui n'est pas mobile, hein. Et je crois que même si je ne me plaisais pas à Orléans, il me serait bien difficile de quitter la région, parce que le fait de m'installer représente un investissement important qu'on ne peut pas solder. Donc je suis un individu qui a pris racine à Orléans et qu'il s'agit là d'une situation qui est pratiquement irréversible. Hein? Alors il faudrait qu'il y ait un échec sur le plan professionnel, que je tue 3 personnes à la file ou que je sois obligé de déménager, vous comprenez? Enfin, je crois que ça, c'est des supputations qui ne se posent pas.
Hein. Vous êtes médecin ophtalmologue.
Oui.
Si vous acceptez, je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment fonctionne votre profession, parce que pour nous en
Ben, le système est différent. Je connais assez mal le National Health Service, mais si j'en ai tout de même entendu parler, enfin, toujours est-il que pour le système français, les gens sont libres de venir consulter quelques médecins que ce soit, et ils peuvent en changer à tout moment. Et que donc, après être venus me consulter, si je ne leur plais pas, ils peuvent, dans les 8 jours qui suivent, aller consulter un de mes confrères. Et vice-versa, s'ils ne sont pas contents des services d'un de mes confrères, ils peuvent venir me consulter dans les 8 jours ou même le lendemain de cette première consultation. Sur le plan des honoraires, voyez-vous, bon, ben, les malades me payent leur consultation et ils en sont remboursés à 75%. Ces honoraires sont des honoraires qui sont des honoraires fixés par décret et que je n'ai pas le droit de dépasser. Sauf lorsque le malade pose des exigences qui ne sont pas les exigences habituelles, si vous voulez, ou s'il s'agit d'une urgence. Hein. On peut également, si on le veut, mais enfin ceci ne peut pas se pratiquer, demander des honoraires supérieurs lorsque la situation de fortune du malade est une situation aisée. Mais ceci me paraît extrêmement difficile à appliquer. Enfin, quant à moi, je ne le pratique pas. Oui, mais enfin, je pense que Nassis ne doit pas avoir la sécurité sociale. Et puis la Loire n'est pas navigable.
C'est le genre d'éventualité auquel je pense. Ouais. Est-ce que vous avez toujours eu l'intention de devenir médecin?
Non. Non, je... C'est peut-être une histoire un peu curieuse. Je pense que les raisons profondes que j'ai débrouillé au bout de... d'assez longues années, finalement, je voulais être officier de marine. Et comme je suis myope, je ne suis pas horriblement myope, mais enfin, je suis myope suffisamment pour qu'on m'ait refusé au concours de l'école navale, que je n'ai pas présenté parce que je savais que j'étais myope. Et j'ai fait ma médecine parce que mon grand-père maternel était médecin, qu'il y a pas mal de médecins dans ma famille, qu'un de mes cousins que j'aimais beaucoup m'a traîné dans sa vieille rosengare sur les chemins de pavés du département du Nord, voir un malade, voir l'autre, et que finalement, ça m'a paru être un métier qui comportait des contacts humains enrichissants, et ça m'a tenté. Et puis alors, ma spécialisation en ophtalmologie, je vous dis, c'est peut-être une revanche contre l'impossibilité de faire la marine, c'est possible. Et puis, en fait, c'est une spécialité qui est assez équilibrée parce qu'elle permet de connaître pas mal de choses qui touchent à la médecine générale. Elle permet des satisfactions opératoires qui ne sont pas désagréables. Et un domaine propre qui est précis, qui est vraiment très objectif, où on peut examiner le malade d'une façon rigoureuse, voyez-vous. C'est dans ça que j'aime mon métier.
Est-ce que dans votre profession, il y a beaucoup de femmes qui exercent ?
Actuellement, énormément. Actuellement, énormément. Enfin, si vous voulez, la nouvelle génération des ophtalmologistes est, j'ai l'impression, à largement plus de 50% féminine.
Ah bon ?
Environ 60% féminine parmi les étudiants actuels. Parmi les étudiants actuels, c'est très très important. Ça a toujours été, la fraction féminine des ophtalmologistes depuis quelques années est importante, mais j'ai l'impression qu'elle tente à le devenir de plus en plus. Et pour vous citer un exemple, je suis attaché dans le service d'ophtalmologie des enfants malades, où je vais 2 matinées par semaine. Eh bien, parmi les externes que nous avons, il y a 2 garçons pour 7 filles actuellement. Vous me direz que c'est un cas particulier duquel on ne peut pas inférer une loi générale, mais enfin, c'est quand même sensible.
Quand même un indice.
Oui. Oui.
Est-ce que vous voyez une explication à cela?
Oui, bien sûr, il y a une explication qui est très simple, c'est que c'est un métier qui comporte fort peu d'urgence.
Ah bon?
C'est un métier où pratiquement toute l'activité se fait facilement sur rendez-vous. C'est un métier qui ne comporte pas de visite. Moi, je fais une visite en ville ou en campagne, tous les 15 jours, peut-être toutes les 3 semaines. ça ne dépasse pas ça, voyez-vous. Donc, une femme qui est mariée, qui a des enfants, peut parfaitement travailler 3, 4, 5 demi-journées par semaine, comme elle l'entend, et se réserver facilement le reste de son temps pour s'occuper de sa maison, de ses enfants et de son mari. Ce qui me semble difficile dans beaucoup d'autres spécialités. Il est évident que, par exemple, des professions comme la pédiatrie, la gynéco-obstétrique pourraient être des spécialités féminines, voyez-vous, mais elles comportent beaucoup d'urgences qui sont peu compatibles avec une vie équilibrée de femme mariée.
Oui. C'est d'ailleurs une chose frappante pour un anglais qu'il y a en France, la proportion des femmes mariées qui travaillent.
Et vous croyez qu'elle est beaucoup plus importante en France qu'en Angleterre?
D'après la statistique.
Moi, je ne sais pas, moi, oui, oui. Oui.
Est-ce que, d'une façon générale, vous êtes pour ou contre ou...
Le travail des femmes mariées, à partir du moment, je crois que, à partir du moment où on peut trouver un système où ce travail n'est pas un travail exclusif, est un travail qui est aménagé pour la femme, je crois que c'est sûrement très, très intéressant et très équilibrant pour elle. Mais que le travail de 8 heures par jour pour une femme mariée ayant des enfants pose d'énormes questions. On en a parlé, j'ai lu une série d'articles, je ne sais plus dans quel journal, il y a un an, où il y avait un projet d'une loi sociale sur le travail à mi-temps des femmes. Je crois que ça, ce serait une chose qui serait sûrement très intéressante et très payante pour les femmes, parce que Ça les sort de leur vie, de la maison, qui n'est sûrement pas très, très payant pour l'esprit, enfin, qui ne leur donne que peu d'aspirations intellectuelles, si vous voulez, et je crois que ce serait très positif, ça, sûrement très positif. Maintenant, ça se heurte aux entreprises, et il est facile de concevoir qu'un patron... apprécie sûrement peu de ne pas avoir la même secrétaire le matin et l'après-midi. Parce qu'elles sont l'une et l'autre, ça met deux fois plus de temps à former. Et je me rends fort bien compte que j'ai une secrétaire dont je suis parfaitement satisfait, et s'il fallait que ce soit une différente que j'ai l'après-midi, ça ne me plairait pas. Ou moins, du moins.
Oui.
Oui, je suis marié.
Est-ce que votre femme...
Ma femme travaille.
Ah, bon.
Ma femme travaille, ma femme est psychologue.
Oui.
Et elle travaille dans des instituts d'enfants plus ou moins adaptés, enfin plutôt inadaptés, disons. Et en plus de ça, elle a une clientèle personnelle ici, dont elle met ses rendez-vous quand elle veut. Et alors, elle est psychologue, elle s'occupe surtout d'enfants. Mais voyez-vous, par exemple, elle a fait un choix qui fait protester un certain nombre de ses consultants. Elle ne travaille pas le jeudi, alors que le jeudi, c'est le jour où, évidemment, normalement, elle devrait recevoir le maximum d'enfants, où c'est le plus pratique pour les parents et pour les enfants. Mais elle refuse de les recevoir le jeudi, disant que si une consultation de psychologie peut très facilement faire sauter une demi-journée de travail scolaire à partir du moment où c'est vraiment quelque chose d'important pour laquelle on vient la consulter, et que, ma foi, le jeudi, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants à elle, et que c'est une chose essentielle. Alors ça marche comme ça. Et voyez-vous, je crois que le travail féminin devrait être compris un petit peu comme cela. Seulement, ça se heurte évidemment au dynamisme et à la question de rentabilité des sociétés industrielles ou commerciales.
Effectivement. Il y a encore une chose au sujet de laquelle il est très intéressant de faire la comparaison, c'est le rôle des associations professionnelles, surtout dans les professions libérales comme la médecine. Est-ce que vous-même vous appartenez à une association professionnelle?
Non. Association professionnelle, c'est-à-dire travailler en... être associé avec quelqu'un.
Ou plutôt non, une association qui englobe tous les membres de votre profession.
Ah oui, vous voulez parler sur le plan syndical.
Si le terme s'applique, oui.
Oui, mais ici, il y a un syndicat départemental des médecins du Loiret, si vous voulez, qui défend les intérêts des médecins sur le plan départemental vis-à-vis, par exemple, des contributions directes et sur le plan national pour revendiquer le statut que nous pouvons avoir vis-à-vis de la sécurité sociale, sur le plan de nos honoraires, etc.
Est-ce que vous-même, vous jouez un rôle actif?
Non.
Il y a une raison pour cela?
Je n'en ai guère le temps, je n'en ai guère le goût. Et puis, en plus de ça, je ne suis pas installé dans la région peut-être depuis assez longtemps. Et puis, tous ces derniers temps, je n'avais pas le temps, je n'avais pas la possibilité d'être à Orléans le jour de ces réunions, de sorte que j'y participe fort peu.
Oui. Bon, alors, si on passait à notre sujet, vous avez dit que vous avez très peu de loisirs.
Oui.
Mais pourtant, il doit vous arriver d'avoir un peu de temps libre.
Oui. Des intérêts particuliers pour ces temps libres. Enfin, je suis libre, je ne travaille pas le mercredi. Le mercredi matin, je vais à l'hôpital, donc. Et l'après-midi, ben, je vais volontiers voir des expositions de peinture, des expositions avant des ventes. Je vais au cinéma. Je vais très peu au théâtre. J'aime beaucoup lire, je lis souvent le soir, mais j'ai relativement peu le temps de lire. Je voudrais lire des livres professionnels, et il y en a toute une pile ici qui traîne que je n'ai pas le temps de lire. Et j'aime beaucoup les livres d'histoire, parce que ça me relaxe, ça ne présente pas un caractère, disons, actuel, et parfois dramatique comme les romans, qui peuvent rappeler des situations plus moins pénible, donc les livres d'histoire me détendent, et j'aime beaucoup les lire. Et puis j'adore la musique, j'ai une discothèque peut-être pas très importante, mais enfin, tout de même, et c'est pour moi un très grand délassement que d'écouter des disques.
Est-ce que je vais vous demander comment vous avez passé dimanche dernier?
Et dimanche dernier, nous sommes allés à Chartres parce que j'ai été conduire mes enfants qui prenaient le car pour aller au sport d'hiver. Ils y vont avec une association de loisirs de Chartres. Alors j'ai été les conduire à Chartres et j'en ai profité pour aller voir des amis qui sont chartrains. Et cet ami est photographe, nous avons discuté photos et... J'ai passé une après-midi avec ces gens qui sont des gens très, très affables, qui reçoivent avec le cœur sur la main et chez qui on peut tomber à n'importe quel moment, qui ont des qualités d'accueil exceptionnelles.
Et est-ce que vous avez des projets pour les vacances d'été?
Ah, pour les vacances d'été, je vais aller comme tous les ans au Guilvinec, qui est un petit port breton, où il y a beaucoup plus d'autochtones que de touristes. C'est-à-dire que sur la ville qui fait 3500 habitants, il y a peut-être au mois d'août 1000 touristes, ce qui fait qu'on est quand même dans une ville qui a une unité, qui est une ville bretonne, un petit port breton, et c'est pas cette immense transhumance, si vous voulez, que l'on trouve dans des plages à la mode, et moi je m'y trouve fort bien. Je vais sur la plage un peu, mes enfants y sont de tout le temps, et je fais de la pêche en mer avec des professionnels, et je joue au tennis. C'est le relax, ça dure un mois.
Je crois qu'on va enlever le nom de la ville pour que ça ne soit pas envahi.
Si vous voulez, oui. Vous n'avez pas été publié, cette histoire, non?
On ça, ça dépend. Vous avez une voiture, évidemment.
Oui.
Quel modèle? Qu'est-ce que vous avez comme voiture?
J'ai une Peugeot 404 injection. Et une autre deux chevaux que j'ai depuis 3 jours.
Ah bon?
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces modèles?
Pourquoi j'ai acheté une 404 injection? Parce que c'est une voiture qui est très rapide.
Oui.
Et c'est une voiture qui est brillante, qui est très confortable. Et puis, j'ai eu une première voiture qui était une 404 que j'avais achetée par raison. Et j'ai eu un accident qui aurait pu être un accident grave. C'est-à-dire que j'ai fait un saut de 6 mètres en contrebas de la Nationale 20. Et je m'en suis sorti avec très très peu de choses. Et la voiture a fort bien résisté à un choc important. Alors, ma foi, j'ai confiance dans cette carrosserie. Et j'ai racheté la même. Et la 2 chevaux, j'ai acheté une 2 chevaux parce que la 2 chevaux est une voiture qui existe depuis, je ne sais pas, ça fait maintenant 20 ans. Que j'en ai eu 3 quand j'étais étudiant, que c'est une voiture qui ne m'a jamais donné d'ennui et que je veux avoir comme deuxième voiture pour circuler en ville, aller à la pêche, balader des cochonneries dedans, quelque chose qui ne me donne aucun souci, voyez-vous. C'est pas élégant, mais ça sera sûrement très pratique.
Justement, le côté pratique, oui. Et enfin, vous avez parlé tout à l'heure de vos enfants.
Oui.
Mais
j'ai 4 enfants, l'aîné a 9 ans, bientôt 10, la seconde va avoir 8 ans au mois de juillet, donc 7 ans, le troisième va avoir 6 ans au mois de juin, et le dernier a 15 mois.
Ce sont des garçons ou des filles?
Alors il y a l'aîné s'appelle Michel. Et c'est un garçon, c'est un prénom qui peut être ambigu. La deuxième, c'est Sophie. Le troisième, c'est Étienne. Et le dernier, c'est Cyril.
Alors, en alternation.
Comment?
Cyril,
c'est un nom de... C'est garçon, ça.
C'est un garçon.
C'est garçon, oui. Garçon.
Encore une fois, on ne sait jamais.
Ah non, non, ça, je crois que Cyril ne peut pas s'employer pour une fille.
Ah non?
Ah non, non, non. C'est un prénom slave,
oui.
Qui est, je crois, exclusivement masculin.
Oh, je regrette, monsieur, justement, j'ai une amie grecque.
Qui s'appelle Cyril?
C'est mon prénom, oui.
Ah, alors là, vous m'apprenez quelque chose, j'ignorais absolument ça, que ça se donnait aussi aux filles enfin, dans ces pays-là, parce que c'est un prénom de la religion orthodoxe, Cyril. Et j'ignorais que ça se donnait aux filles.
Enfin, dans un cas, on voit.
Enfin, ça s'est donné.
C'est pour ça que j'hésitais.
Oui.
Et vous devez évidemment avoir des opinions sur l'éducation, sur l'enseignement de vos enfants.
Oui.
Est-ce que, à votre avis, il y a une matière ou une chose qu'il faudrait avant tout apprendre aux enfants à l'école? Soit une matière existante, soit une matière peut-être qui ne figure pas au programme. Est-ce que vous voyez des priorités là-dedans?
Je crois qu'à l'école primaire, l'enseignement du français, l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans ce qu'elle a de plus traditionnel, est une chose qui est excellente. Et finalement, quand je vois comment mes enfants l'apprennent, je trouve que ça n'est pas si mauvais. Hein, à condition qu'on les apprenne à lire également par les méthodes traditionnelles, parce que quand on voit l'apprentissage par la méthode globale, je suis assez bien placé pour le voir, parce que je fais lire des gosses pour savoir s'ils voient clair, c'est souvent un désastre. Et je trouve que l'enseignement primaire français, et même le vieux certificat d'études, était une chose très bonne. Maintenant, pour l'enseignement secondaire, c'est une autre affaire.
Oui.
Mais mes enfants n'y sont pas encore, alors parlons de choses actuelles.
Bon, je reviendrai dans 4-5 ans pour poser la même question sur le secondaire.
Peut-être.
Il y a évidemment une évolution du
d'évolution de l'éducation, de l'enseignement primaire, moi, j'en vois pas tellement. J'en vois pas tellement. J'ai l'impression que c'est l'enseignement vraiment qui est l'enseignement de tout temps, qui existait il y a 20 ans en tout cas. Il y a une chose, c'est que les instituteurs se sont un peu modifiés parce qu'ils ne se recrutent plus dans les mêmes classes de la société, et que l'on voit par exemple en France beaucoup de jeunes bacheliers qui, ne sachant pas trop quoi faire, ou bien n'ayant pas les possibilités intellectuelles ou matérielles d'aller beaucoup plus loin, sont instituteurs. Alors ils ne sont pas animés de la même foi enseignante que les vieux enseignants que moi j'ai connus, et qui avaient vraiment un dynamisme extraordinaire. Mais mes enfants ont eu la chance presque tous de tomber sur des vieux instituteurs. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas tellement de changement dans la façon dont ils apprennent. Il y a toutefois, vous parliez de matière qui devrait être enseignée, il y a toutefois un aspect qui, à mon sens, est un peu scandaleux dans l'enseignement primaire français, c'est l'absence totale de sport. Alors vraiment tout à fait totale. Et mon gamin, l'aîné, allait faire du football en bas de la rue des Chartiers, sur l'initiative personnelle de son instituteur, eh bien, il était obligé d'amener son ballon, parce qu'il n'y avait pas de ballon à l'école primaire pour jouer au football. Alors je lui dis une fois, non, c'est parce que tu veux montrer ton ballon à tes petits copains, et tu comprends, il y a bien à l'école un ballon. Il m'a dit, papa, je te jure, vraiment, avec les accents de la sincérité, il n'y a pas de ballon, il faut que quelqu'un amène le ballon, sinon on ne pourra pas jouer. Ça, c'est un aspect qui est complètement négligé. Il n'y a absolument pas de sport dans les écoles primaires.
Est-ce que ça existe côté secondaire ?
Ah, dans le secondaire, oui. Oui, dans le secondaire, oui, il y a du sport. Je crois qu'il n'y en a peut-être pas assez, mais dans le primaire, il n'y en a pratiquement pas du tout. Et je crois que c'est une chose regrettable. Moi, personnellement, je crois que le latin, ça présente un intérêt de gymnastique intellectuelle. Et qu'en ce sens-là, c'est très valable. Mais je crois que l'enseignement de langues vivantes, structurées, et je vais peut-être vous faire de la peine en vous disant que l'anglais n'est pas une langue structurée.
Vous avez tout à fait raison. Sur le plan technique, c'est exactement.
Serait aussi payant. Et je pense que, par exemple, on rendrait l'enseignement de l'allemand obligatoire, voyez-vous, ça serait identique à l'enseignement du latin. Et en plus de ça, ça amènerait quelque chose qui serait positif pour les enfants dans les années, dans leur existence. Moi, personnellement, je serais favorable à l'enseignement obligatoire de l'allemand et de l'anglais. Parce que l'anglais est une langue véhiculaire qui maintenant devient indispensable. Moi, je ne sais pas l'anglais, et ça me pose, je ne dis pas journellement, mais enfin très très fréquemment des questions, parce qu'il y a des tas d'articles techniques qui sont en anglais, et je les comprends fort mal. Oui.
Il y en a un qui réussit, l'autre qui ne réussit pas.
Oui.
Est-ce que, à votre avis, il y a des facteurs en jeu qui sont plus importants que
ça ? Ah ben, je crois que de toute façon, l'intelligence est... C'est pas Churchill qui disait que l'intelligence court les rues et que le caractère est moins commun ? Il me semble bien que c'est Churchill. Mais je partage parfaitement cette opinion. Je crois que l'intelligence est une caractéristique relativement peu importante de l'individu. Elle est nécessaire, mais elle est très très loin d'être suffisante. Je crois que le caractère et le dynamisme personnel sont infiniment plus importants. sont infiniment plus importants dans la réussite scolaire, d'une part, et même dans la réussite professionnelle. Il y a des gens qui en veulent, il y en a d'autres qui n'en veulent pas.
Alors, il s'agit surtout de traits personnels, de traits innés.
Je ne pense pas que ce soit inné. Enfin, il y a sûrement une partie innée, et puis il y a une partie qui tient la structure familiale dans laquelle le gosse se trouve, qui fait qu'il a envie de travailler ou qu'il n'a pas envie de travailler pour rester dans les jupons de sa mère, ou qu'est-ce que je sais. Enfin, ça, c'est des problèmes qui me dépassent et que mon épouse vous expliquerait sûrement mieux que moi.
Est-ce que vous avez une opinion sur l'âge de fin d'études?
Personnellement, je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais enfin, je crois que l'on doit essayer de tirer de tout individu le maximum et essayer de le promouvoir au maximum. Je crois que pour les individus qui ne bénéficient pas de moyens intellectuels énormes, prolonger la scolarité jusqu'à 16 ou 18 ans est une erreur. En ce sens que l'individu qui n'a pas des possibilités réflexives très importantes, il vaut beaucoup mieux qu'il acquiert des réflexes, des automatismes professionnels de bonheur, parce qu'il est beaucoup plus facile de les acquérir lorsque l'on est jeune, lorsque l'on est très jeune, que lorsqu'on est plus âgé. Alors je crois qu'il faudrait que ce soit moins systématique. Par contre, pour ceux qui ont une intelligence suffisante, la prolongation de la scolarité jusqu'à 18 ans me paraît une chose excellente, parce qu'elle permet de rendre l'individu plus conscient de tous les problèmes, pas seulement de ses problèmes professionnels, mais de problèmes sociaux, de problèmes politiques, et lui permettre d'être davantage lui-même, quoi. Maintenant, il y a également sûrement dans cette histoire de la prolongation de la scolarité un facteur qui est un facteur économique, en ce sens qu'en prolongeant la scolarité, on évite le chômage des jeunes. Et c'est peut-être quelque chose qui est intervenu dans cette réglementation.
Pour revenir un peu à la ville d'Orléans.
Oui.
Est-ce que vous trouvez d'une façon générale que, par exemple, les produits de services ont fait assez pour les habitants de la ville? Les habitants sont bien servis. Que ce soit sur le plan social, le plan logement, culturel.
Oui, allô? Oui, j'ai pas tout à fait fini, c'est presque terminé. Hein. Je vais monter dans 5 minutes, 10 minutes, 5-10 minutes. Hein. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas très au courant toutes ces histoires, locales ou communales, et je ne peux pas vous répondre d'une façon, certaine. Il me semble que ça n'est pas très mauvais, voyez-vous, hein, sûrement pas, ça n'est pas une situation fâcheuse. Il y a sûrement encore beaucoup de choses à faire. Tout ceci est évidemment une question de budget, hein, et une question de choix. Il y a sûrement, pour moi, plusieurs choses qui manquent de façon importante. C'est une piscine, mais il paraît qu'on est en train d'en construire une. Et une maison de la culture. Je suis originaire d'Amiens, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il existe là-bas une maison de la culture qui est tout à fait remarquable. Je trouve que Il y aurait dans la fondation d'une maison de la culture valable, enfin valable sur le plan local, parce qu'il y en a bien une ici, mais enfin elle est tellement exiguë que bien peu de personnes peuvent s'y rendre, un lien, si vous voulez, qui unirait une partie de la population, des éléments dynamiques de la population. Et ceci pourrait être, à mon sens, très positif, pour donner davantage d'âme à la ville, parce que de temps en temps, c'est ce dont elle semble manquer, voyez-vous. Tenez, voulez-vous une cigarette? J'ai une cartouche, en haut. Bon, okay, c'est toi. Nous sommes en train d'acheter un dictionnaire et c'est ma mère qui me l'offre. Elle m'a offert le premier tome d'un dictionnaire en 3 volumes. Voyez-vous, j'ai un tiers de dictionnaire valable, mais j'ai des petits dictionnaires de poche.
Oui.
Quoi.
Et le dictionnaire en 3 volumes, c'est lequel?
C'est le Larousse.
Ah bon. Et du côté encyclopédie?
Non. Enfin, si ce n'est des encyclopédies professionnelles, mais enfin, ça c'est autre chose.
Et en général, dans votre famille, qui est-ce qui se sert le plus souvent du dictionnaire ou des dictionnaires? Bon, pas d'interprétation.
Oui, enfin, je crois que c'est à parité, voyez-vous. Enfin, oui. Et en général, d'ailleurs, c'est sur une, c'est lors d'une discussion. C'est un élément de référence, donc c'est le plus souvent lors d'une discussion entre ma femme et moi, par exemple, ou s'il y a des amis, qu'on se porte vers ce dictionnaire.
Est-ce que vous avez tendance à chercher un genre de renseignement plutôt qu'un autre?
C'est le plus souvent des renseignements d'ordre historique.
Oui. Et évidemment, vous possédez toute une collection d'ouvrages médicaux.
Oui.
De référence et autres.
Oui.
Et pour le reste, est-ce que vous avez des ouvrages de référence?
Donc quelques livres de décoration.
Oui. Et du côté du français, est-ce que vous avez des ouvrages sur le français, par exemple, Grévis, le bon usage ou des...
Non, mais je regrette de ne pas en avoir, et j'ai souvent pensé en acheter, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais en particulier acheter une grammaire. Mais je ne l'ai pas acheté, c'est un projet d'acheter la grammaire de le Bidois.
Ah, il
faut que je le note d'ailleurs, vous me le faites rappeler. Ah bon, je sais pas, non, c'est mieux Dubois, vous dites.
Est-ce que le journal que vous lisez habituellement contient une rubrique sur le langage?
Oui, je lis Le Monde.
Ah bon?
Et La République du Centre aussi, mais plus rapidement.
Oui. Et cette rubrique sur le langage, est-ce que vous la lisez?
Oh, disons que je la lis à peu près une fois sur trois. Hein.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est intéressant. Moi, ça m'intéresse.
Est-ce que vous avez le temps de faire des mots croisés? Le temps ou la
question? Oh, jamais.
Jamais. Bon.
Et ça m'énerve.
Ah. Après, nous sommes d'accord. Et le franglais? Qu'est-ce que vous pensez du franglais? Est-ce que vous êtes différent?
Est-ce
que c'est nuancé?
Oui, c'est nuancé, c'est nuancé. Je pense qu'il ne faut, il faut pas tomber dans le snobisme d'employer systématiquement un mot anglais lorsque l'équivalent en français existe. Mais enfin, il est certain que dans le vocabulaire professionnel médical, eh ben, il y a des termes anglais qui n'ont pas d'équivalent en français, sauf par des périphrases qui sont longues. Et je trouve absolument stupide à ce moment-là d'employer la périphrase qui est longue. Bon, maintenant, bah, dans la vie courante, il y a quelques mots anglais qui sont passés dans le français, enfin, dont je fais usage comme tout le monde. Je pense que on ne va pas tomber dans un chauvinisme de langage qui serait stupide.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences entre les façons de parler selon les milieux sociaux?
Oh, sûrement. Mm-hmm. Sûrement.
Des différences importantes?
Non, peu importantes, mais enfin, il y a des différences.
Qui porteraient sur quoi, surtout?
Il y a des termes plus ou moins... enfin, si vous voulez, je ne parle pas de recherche, mais enfin, il y a des termes qui sont plus ou moins... grossiers, qui sont employés plus facilement par certaines couches de la société en fonction des fréquentations des uns ou des autres, quoi.
Oui. Est-ce que vous trouvez que, d'une façon générale, on parle de mieux en mieux ou de plus en plus mal, ou est-ce que c'est sans changement?
Je n'ai pas l'impression que ce soit de plus en plus mal.
Pourquoi?
J'ai l'impression que c'est sans changement.
Oui. Est-ce que, parmi vos connaissances, penser à une personne qui parle le français particulièrement bien, qui manipule la France exceptionnelle?
Oui.
Je peux demander la profession de cette personne?
Un médecin, oui.
Et parmi les gens que vous êtes allé entendre, même sans les connaître?
Oui. J'ai pas compris le sens de votre question.
Enfin, dans votre connaissance, évidemment, il y a cette personne, ce médecin,
oui,
qui parle particulièrement bien. Est-ce que il y a d'autres personnes qui se distinguent par leur façon de parler parmi les gens que vous ne connaissez pas mais que vous entendez?
Oui. Oui, bien sûr, oui.
Par exemple.
Mais je trouve que, par exemple, le maire d'Orléans est un individu, puisque vous parliez d'Orléans tout à l'heure, qui parle remarquablement notre langue. D'autres. On peut parler de M. Malraux, on peut parler du général.
Effectivement, que l'on commence la liste.
Oui.
Bien longue.
Oui.
Et pour le contrôle, mettons, des innovations, à votre avis, est-ce qu'il y a un organisme qui...
Sûrement pas.
Les autres?
Sûrement pas. C'est l'usage. C'est l'usage. Je vous le disais tout à l'heure, moi je n'ai pas l'impression qu'il y ait une dégradation marquée de la langue française.
Est-ce que vous seriez favorable à un contrôle?
Je crois qu'il n'est pas, il n'est pas possible et il est inopérant.
Oui. Mais par exemple, dans des cas précis, par exemple, le français employé par les speakers de la télévision.
Alors ça, je crois que c'est important. Je crois que... dans les moyens d'information nationalisés, il y a indiscutablement une responsabilité des pouvoirs publics de réprimander les speakers de la télévision qui parlent un français incorrect.
Et vous-même, quand vous étiez à l'école,
en physique.
Ah oui. Ça change. Le nombre de témoins qui dit automatiquement le français. Est-ce que d'habitude vous avez quelque chose pour écrire sur vous?
Toujours.
Quoi?
Bah, des notes. Un stylo à billes.
Stylo à billes.
Stylo à billes, oui.
Vous possédez un stylo à encre?
Oui. Je ne rédige jamais une ordonnance au stylo à billes. Je trouve que c'est incorrect. Et je n'écris jamais une lettre au stylo à billes, parce que je trouve que c'est incorrect.
Et oui, justement, au sujet de la correspondance, est-ce que vous devez écrire beaucoup pour votre profession?
Oui, énormément. Je me sers d'un magnétophone.
Ah bon?
Et ma secrétaire tape ça.
Oui. Et en dehors de votre travail?
Oui. Je n'écris que très peu à mes amis et à ma famille, très peu.
Les lettres qu'on vous envoie, est-ce que vous les conservez? À part le coup de travail, évidemment, vous les conservez.
Oui.
Mais
non.
Les lettres personnelles?
Non.
D'habitude, vous avez sans doute un bloc, un carnet, quelque chose comme ça pour les lettres?
Oui. Non, c'est pas un agenda. J'ai un agenda planning sur lequel je marque les rendez-vous, les choses que j'ai à faire. Et puis j'ai un répertoire avec des adresses et puis quelques feuilles blanches à la fin où je note ce qui est plus particulièrement agenda, c'est-à-dire choses à faire au sens étymologique du terme, et où je barre progressivement ce qui est fait. Et je vois là qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Alors, si nous abrégeons.
Non, mais je vous en prie, hein, je suis pas
quand même
à 3 minutes près.
Quand vous écrivez une lettre personnelle,
oui.
Est-ce que d'habitude vous faites un brouillon?
Jamais.
Jamais. Est-ce que vous relisez?
Toujours.
Et vous écrivez, comme vous avez dit, à l'encre. Est-ce que vous avez des préférences que du papier?
Ben j'ai horreur des papiers de mauvaise qualité.
Oui. Et par exemple, couleur?
De l'encre?
Non, du papier.
Blanc, toujours.
Oui.
Comme les chemises.
Ah. Et pour l'encre?
Bleu. Mmh. Je trouve que c'est plus esthétique. Je trouve que le noir est triste.
Ah oui. Est-ce que vous arrivez parfois d'utiliser du papier à carreaux?
Non.
Ensuite, des renseignements factuels.
Factuels.
Pour la statistique, tout simplement, des renseignements sur votre famille.
Ah bon, oui.
Vous avez 4 enfants et la date de la profession. Votre femme est française et vos parents aussi.
Mmh.
Hein? Et. Enfin, attendez. Vous-même, vous êtes. Pardon, ce sont vos parents. Vos parents ont continué leur vie jusqu'à quel âge?
Mon père a dû poursuivre des études jusque. Il était licencié en droit. Mmh. Ses études jusque, je ne sais pas,
oui,
3 ans.
Licence en droit, c'est ça. Et alors, il était
marchand de chaussures.
Ah bon. Et votre mère?
Ma mère n'a pas son baccalauréat, mais c'est une personne fort intelligente.
Voilà.
Parce qu'elle bénéficiait, elle a bénéficié d'un enseignement religieux.
Ah oui.
Et un peu rétrograde, où le baccalauréat était une institution républicaine qu'on ne devait pas passer.
Oui. Ça, c'est vraiment du nouveau comme enseignement. Et vos grands-pères, est-ce que vous pouvez me dire au moins leur profession?
Ah ben, mon grand-père vendait des chaussures.
Oui, côté paternel.
Côté paternel, et mon grand-père maternel était médecin otorhinolaryngologiste.
Oui. Et madame, vous avez dit, elle est...
Ma femme?
Oui.
Et psychologue.
Psychologue. Ah. Et vos enfants, j'ai des renseignements pour l'âge, ils font leurs
études. Ils font des études primaires, oui. Oui, elle est laïque et obligatoire. Non, sauf le dernier qui est dans un cours privé, mais à la maternelle. Mais je vais le mettre à la... je vais le mettre en... dès qu'il va rentrer dans le primaire, je vais le mettre à l'école publique.
Oui. Et est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ont fait du latin?
Ben, moi, ma femme... ne remontons pas aux autres générations.
Oui, je m'en fous. C'est déjà bien. Et vous-même, vous avez fait vos études primaires à Amiens?
Oui.
C'était laïque ou...
Non, c'était confessionnel.
Ah, oui.
Alors, il y a eu un intermède où, pendant l'évacuation, j'ai été un trimestre à l'école laïque obligatoire, oui. Et dont j'ai gardé un souvenir tout à fait remarquable. Ben, positif, oui,
ah
bien
bon.
Sûr. Très positif par rapport à l'enseignement dont j'avais bénéficié et avant et après.
Ah bon. Et l'enseignement secondaire
confessionnel également.
Toujours à Amiens.
Ah non.
Ah non.
Oui, à Amiens, puis dans la banlieue parisienne.
Ah. Et l'enseignement supérieur, c'était...
À la fac de médecine de Paris.
Quelques questions, et puis dans une demi-heure sera fini, je vous promets, sur les poursuites culturelles. Là, j'y tiens parce que je vois que vous en avez qui sont très développées. Est-ce que vous écoutez la radio?
Oui.
Quel genre d'émission, surtout?
Bah, j'écoute les informations sur Europe numéro 1.
Oui.
Et à part ça, j'écoute France Musique.
Oui.
Pour écouter de la musique.
Oui. La télévision?
Oui. Peu.
Encore une fois, des émissions préférées?
J'aime beaucoup les émissions sportives.
Oui.
J'aime beaucoup les émissions sportives à la télévision. Et puis, bah, ma foi, les films.
Oui.
Pièces de théâtre. Il y a quelquefois des choses remarquables à la télévision, pièces de théâtre.
Oui. Et le cinéma, vous avez dit que...
Oui, pas très souvent, pas très souvent.
Encore une fois, la même question, les préférences.
Dans quel sens?
Préférences, quel genre de film? Ou est-ce que vous avez goût à dire?
Ben, j'aime bien les, disons, les... le cinéma actuel, le cinéma... un petit peu symbolique qui a été qui a commencé en Italie, enfin qui a fait un petit peu école en France. J'aime beaucoup le cinéma moderne.
À votre avis, est-ce que ces médias, la radio, le cinéma, la télévision peuvent être des instruments de culture?
Oh, sûrement, oui.
Est-ce que vous-même vous faites de la photo?
Oui.
Oui.
Beaucoup même.
Et quel genre de photo?
Ben, des photos de mes gosses, oui. Des photos de paysages.
Les photos qu'il y a dans votre salle d'attente?
C'est moi qui les ai prises.
Ah bon?
Oui.
Il s'agit là de voitures de course.
Oui, 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 oui. Oui, j'ai été au 24 heures du Mans l'année dernière et j'ai pris ces photos, et sur un grand nombre, il y en avait d'autres bonnes, c'est celle-là, parce que c'est pas tellement facile.
Effectivement. Et la peinture, je vois que vous vous y intéressez.
Non. Enfin, si, je m'y intéresse, oui, mais enfin, pas... Et non, je peux penser à la maison, oui, oui, oui.
Vous en faites?
Non.
Et est-ce que vous avez des peintres ou des écoles qui vous touchent particulièrement?
Oui. Pourquoi vous voulez des noms? Oui, parmi les contemporains, parmi les anciens. Enfin, je sais pas, si vous voulez que je vous dise que le peintre sûrement que j'aime le plus, c'est Cézanne.
Oui.
maintenant ben, parmi les peintres modernes, on peut en citer des tas, que j'aime bien, oui.
Ça fait tout un annuaire.
Oui, ça fait tout un annuaire, c'est pas la peine.
Et la musique évidemment vous touche beaucoup.
Oui.
Encore une fois, je peux vous demander, est-ce que vous-même vous faites la musique?
Non.
Vous avez fait?
Non. J'ai fait un peu de piano quand j'étais gamin, enfin, disons que c'était pas valable.
Comme tout le monde.
Oui, c'est ça, comme tout le monde, oui. Enfin, ça n'a pas été très loin.
Et toujours le même genre de question, est-ce que vous avez des compositeurs préférés?
Oui.
Vous avez quand même, je
crois. Oui, oui. J'aime tous les musiciens, je crois, sauf Massenet.
Ça va être le choix.
Oui.
Et le théâtre?
Oui. Moi, ça fait bien, bien longtemps que je n'ai pas été au théâtre. Mais enfin, j'aime bien le théâtre. Ben, le théâtre expérimental, oui, s'il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Quelle était cette pièce que j'ai vue, cette pièce, oui, au TNP, là, sur les... ces deux gars qui avaient été exécutés, là. Je ne me souviens plus du titre de la pièce, parce que j'ai une mémoire assez défaillante de temps en temps. On faisait pas le peu, je ne me souviens plus. Si, c'est ça, c'est ça.
Je vais trouver le titre. Voilà ce que je m'en souviens pas. Et alors, les périodiques, évidemment, les périodiques médicales, Le Monde, vous avez dit,
oui.
La République du Centre,
oui.
Est-ce qu'il y a d'autres journaux de périodiques?
Que je reçois.
Oui.
Toute la pêche, voyez-vous. Et que je reçois.
Oui.
Auquel je suis abonné ou que j'achète. Le Nouvel Observateur et Le Canard Enchaîné.
Et vous lisez surtout les histoires.
Oui.
Et des romans?
Oui, oui. Mais pas tellement, ça dépend, c'est par période.
Une dernière question, et c'est vraiment la dernière.
Oui. Sans embâche.
Est-ce que je peux vous demander où vous vous placez politiquement?
Oui, mais enfin, vous ferez état de cette réponse ou pas?
Alors, ne répondez pas.